applaudissements. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Alléluia. Merci Jésus. Quelle que soit la langue dans laquelle vous parlez, loué soit Dieu, car Dieu est bon. Amen. Est-ce que tout le monde est content ce soir? Êtes-vous content ce soir? Est-ce qu'on a du feu ce soir? Dieu est bon. Amen. Encore une fois, je veux remercier Pasteur Alice pour me donner ce privilège d'être ici avec vous ce soir, Pasteur Nenny et sa femme, Pasteur Vincent et son épouse. Merci de m'avoir accueilli ce soir et de me permettre d'être dans cette grande église. Amen. Nous donnons la louange à Dieu. Et quand on se souvient de l'ancien immeuble, on donne la louange à Dieu. Dieu est merveilleux. Amen. Très rapidement, avant d'entrer dans la parole de Dieu, encore une fois, je veux vous parler d'un livre que j'aimerais que vous puissiez acheter. Ça va vous aider et ça va m'aider, moi, à aller de par le monde pour prêcher l'évangile. J'ai appris lundi, parce que lundi, je vais à Paris et vendredi, je suis là. Et dimanche, je suis à Bourg-en-Bresse. Et lundi, je rentre à la maison. Mardi, je serai à la maison. Et puis mercredi, je vole à Atlanta. Je ne me souviens plus de son nom. Quel est le nom de ce type? Vous savez, il est sur TBN. C'est un Égyptien, Nasser Sadiki, ça c'est son nom. Je vais faire un séminaire avec lui à Atlanta. Et je reviendrai le samedi pour prêcher dans mon église le dimanche matin. Et le lundi, je repars pour le Nigeria, Pocopec, Lagos, à l'île de Maurice pour 2 jours. Et ensuite en Irlande, et je retourne aux États-Unis. Et ensuite, je m'envole pour la Floride. Et ensuite, je dis merci Jésus. Je suis plus que fatiguée déjà rien que de penser à tout ça, mais Dieu est bon. Amen. Donc, quand vous achetez ces livres, et à partir de février, on va m'entendre on va me voir sur la télévision nationale du Nigeria, et 2 fois par mois, on est sur la télévision nationale aux États-Unis. Donc, quand vous achetez ces livres, vous nous aidez à faire ce qu'on doit faire. On ne veut presser personne, mais on simplement veut vous dire que nous, on veut prêcher l'évangile. Voici un livre en français. Vous savez que Dieu parle anglais d'ailleurs, hein? Alléluia, merci Jésus. Vous les Français, vous devrez apprendre à parler en anglais pour le ciel. Merci Jésus. Celui-ci s'appelle Tetelestai. Alors, il le dit. Ça sera une bénédiction pour vous. C'est vraiment un grand livre. Je vous le dis, les informations dans ce livre vont changer votre vie. D'accord? Donc, prenez une copie de ce livre qui est 15 francs. Celui-ci, c'est la puissance du parler en langue. 101 bénéfices que vous aurez en parlant en langue. Et ensuite, comment augmenter votre onction dans le Seigneur. Et maintenant, on va venir au livre en anglais. Alléluia. Et tous les Anglais disent Amen. Alléluia. Ça, c'est mon dernier livre qui s'intitule « La guérison vous appartient ». Ce livre va vous enseigner comment marcher dans une vie divine. Il va vous dire quel genre de maladie Jésus a guéri dans son ministère. Et vraiment, ça va ouvrir vos yeux. Le premier chapitre, c'est la maladie de la flagellation. Vous savez ce que c'est que la flagellation? La flagellation, vous savez que c'est un fouet, d'accord? Le fouet romain s'appelait un flagel. Et Jésus a pris ses coups pour que nous, on n'ait pas à les recevoir. Amen. Et il y a un chapitre dans ce livre qui est vraiment grand. Bien. Parce que si ça ne vous touchera pas maintenant, ça vous touchera plus tard. Qui veut dire que j'ai le droit de marcher dans une santé divine dans mes vieux jours, d'accord? Vous n'aurez pas toujours 20 ans, je vous le dis. Est-ce que j'ai raison? Je vois des dames qui disent, oh, moi j'ai l'air d'avoir 35 ans, de toute façon, oui, mais vous avez 53. Ça n'a pas d'importance si vous les coupez pour les mettre derrière vos oreilles, vous avez toujours 53 ans, amen. Donc, ça, c'est 20 francs. Et celui-ci, un nouveau livre, c'est pour tous les jeunes garçons et les jeunes filles. Moi, j'aurais aimé avoir ce livre quand j'avais 15, 17, 20 ans. J'aurais voulu avoir ce livre. Parce que les informations de ce livre ont changé votre vie. Et celui-ci, ceci m'a rendu très populaire au Nigeria. Exposer et vaincre l'esprit d'infertilité, ça m'a rendu connu au Nigeria. Il n'y aura pas d'infertilité ici. Amen. Ou de la stérilité. Et c'est pas simplement, on ne parle pas seulement de la stérilité normale, mais vous avez la stérilité spirituelle, la stérilité financière. La stérilité veut dire tout simplement la stagnation, une phase de non-production. Et le dernier, la puissance de parler en langue. Et ce livre vous apportera 101 bénéfices de parler en langue. Le Nigeria. C'est un pays où je prêche pendant une heure et que je signe des livres pendant 3 heures. Dieu est bon. Très bien, sommes-nous prêts pour la parole ce soir? Levez votre main et dites, mon feu ne doit jamais s'éteindre. Dites-le encore une fois, mon feu ne doit jamais s'éteindre. Est-ce que vous croyez vraiment cela? Je ne peux pas vous entendre dire mon feu. Dites mon feu ne s'éteindra jamais dans le nom de Jésus. Très bien. Prions, Père, nous voulons te remercier pour la parole de Dieu. Esprit de Dieu, je te demande que tu penses à travers mon esprit et que tu parles à travers mes lèvres. Merci pour le peuple magnifique qui ont des oreilles pour entendre, un esprit pour comprendre et un cœur pour recevoir la parole de Dieu. Et dans le nom de Jésus, tout le monde dit Amen. Regardons maintenant à notre texte de fondation encore une fois. Lévitique chapitre 6, verset 12. Et je crois que la Bible en français est un peu différente de nous. Donc, je vais vous donner, ça doit être Lévitique 6, chapitre 5. Je vous ai dit, Dieu était anglais. Alléluia. Amen. Non, je blague seulement. Lévitique chapitre 5, je pense. Je vous le dis tout de suite. Au verset 5. Ou 4. Et ensuite, on regarde au Nouveau Testament, qui est 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. Lévitique chapitre 6, verset 5 dit, « Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra pas. » Levez votre main et dites, « Le feu ne s'éteindra pas. » Maintenant, souvenez-vous, je vous l'ai dit, que c'est Dieu qui a envoyé le feu sur l'autel, d'accord? Mais ensuite, c'était la responsabilité des prêtres de garder le feu brûlant. Lui soit Dieu, Jésus vous a baptisé du Saint-Esprit et de feu. Mais après cela, c'est à vous de rester continuellement rempli dans l'Esprit de Dieu. Quelqu'un dise Alléluia. Le jour de Pentecôte, l'Esprit de Dieu est venu comme un vent puissant et impétueux et des langues de feu s'est mis sur chacun d'eux. Mais quand on lit dans Éphésiens, Paul dit, étant rempli du Saint-Esprit, donc vous devez vous garder rempli du Saint-Esprit. Que quelqu'un dise Amen à cela. Maintenant, donc on va continuer de lire, s'il vous plaît. Le feu sur l'autel brûle, ne s'éteindra pas. Que quelqu'un dise Alléluia. Laissez-moi vous lire cela dans la traduction de la parole vivante. Cependant, le feu sur l'autel doit être gardé brûlant. Il ne doit jamais s'éteindre. Mettez votre doigt sur votre voisin et dites, ton feu ne doit jamais s'éteindre. Dites-le encore une fois. Ton feu ne doit jamais s'éteindre. Très bien. Maintenant, on va dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. On va regarder au verset 19, 20 et 21. Verset 19 à 21, c'est l'apôtre Paul qui parle à l'église aux saints. Et il dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 19, « N'éteignez pas l'esprit !» Tout le monde dit « N'éteignez pas l'esprit !» D'accord. Maintenant, et le verset 20 et 21. Et pendant ce temps, je vais vous le lire dans une autre Bible où il est dit « N'éteignez pas le feu du Saint-Esprit !» Amen. Dites-le, je ne vais jamais éteindre le feu de l'esprit. Verset 20, il est dit, ne méprisez pas les prophéties. Il y a des gens aujourd'hui qui voudraient simplement mettre une cloche sur la prophétie. Quand vous commencez à mettre des cloches sur les prophéties, Vous mettez aussi une cloche sur le don de l'esprit. Laissez-moi vous dire ceci. C'est illogique. Ce n'est pas logique pour vous de penser que vous pouvez avoir un réveil sans avoir le mouvement et les dons du Saint-Esprit. Parce que si le réveil dépendait de l'éloquence des prédicateurs, on aurait eu des réveils partout de par le monde. Est-ce que j'ai raison ou pas? Parce que certains des prédicateurs sont encore en vie aujourd'hui. Que quelqu'un dise Alléluia. Et aujourd'hui, quand on utilise le terme charismatique, on dit, oh, ce prédicateur, il est charismatique. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ça veut dire qu'il peut nous faire rire. D'accord? Il est vivant, il est enthousiaste et il nous fait rire. Mais comment pouvez-vous vous appeler charismatique sans avoir le don du charisme? Dans les anciens temps, être charismatique voulait dire que vous opériez dans les dons de l'esprit. Mais aujourd'hui, être charismatique veut dire que vous pouvez me faire rire. Allô? Autant que je crois au rire, autant que je crois qu'on peut rire dans le Saint-Esprit, je ne suis pas venue pour vous faire plaisir ou vous entretenir, pour vous faire passer un bon moment ce soir. Paul a dit, je viens vous voir pour pouvoir vous donner des dons spirituels en vous. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Nous avons besoin des dons de l'Esprit. Venez, levez votre main et dites, j'ai besoin des dons de l'Esprit. Dites-le encore une fois, j'ai besoin des dons de l'Esprit. Je vous le dis, si une église est cool et qu'elle est riche dans les dons de l'Esprit, le réveil va jaillir de cette église. Mais vous ne pouvez pas opérer dans les dons de l'Esprit si vous ne respectez pas le Saint-Esprit. Souvenez-vous de ceci, tout ce que vous respectez, c'est ce que vous allez attirer. Si vous respectez le Saint-Esprit, vous allez attirer le Saint-Esprit. Que quelqu'un dit Amen. Donc ce soir, alors qu'on a parlé du feu de Dieu dans votre vie, et qu'hier j'ai parlé des 7 points qui vous indiquent si vous avez cette attitude nonchalante qui vont déterminer, vous montrer ou vous démontrer que votre feu est en train de s'éteindre. Mais ce soir, je veux vous parler du feu de l'adoration. Le feu de l'adoration qui suit la supplication. Ça suit quoi? Ça suit la supplication. Dites loué soit Dieu. Maintenant, je veux que vous ouvriez vos Bibles avec moi, s'il vous plaît. Le feu d'une adoration intense ou faire son ministère envers le Seigneur, d'accord? Dites après moi, je suis un ministre du Seigneur. Très bien, maintenant, Actes chapitre 13, s'il vous plaît. Et on va lire à partir du verset 1 au verset 2. Actes 13, verset 1 au verset 2. Actes 13, verset 1 à 2. Lisons-le tous ensemble, s'il vous plaît. Il y avait dans l'église qui était à Antioche, quoi, des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé le Niger, Lucius de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque et Saul. Maintenant, ce que je veux que vous remarquiez ici, avant de continuer au verset suivant, il y avait des enseignants et des prophètes, d'accord? C'était pas simplement des novices dans l'église, ils étaient les poids lourds de l'église, amen. C'était des prophètes, des enseignants, comme Barnabas, comme Saul, et ceux qui ont été élevés dans la maison de César, d'Hérode, excusez-moi, pas César. Maintenant, allons au verset 2, s'il vous plaît. Verset 2, gloire à Dieu. Regardez au verset 2. Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur, je veux que vous souligniez le terme « célébrer ». Si c'est votre Bible, il est dit « alors qu'ils adoraient le Seigneur ». Dans ma Bible française, à moi, il est dit « célébrer ». D'accord? Est-ce que je peux avoir un email? Il est question de servir le Seigneur. Il est dit « alors qu'ils faisaient le célébrer le Seigneur, alors qu'ils rendaient un culte au Seigneur, ou alors qu'ils servaient le Seigneur dans l'adoration. » Dites ceci après moi. Faire son ministère envers le Seigneur, adorer le Seigneur, servir le Seigneur avec l'adoration. Maintenant, c'est tellement important. alors qu'ils faisaient leur ministère envers le Seigneur ou alors qu'ils adoraient le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, notez que le Saint-Esprit parle dans le domaine de faire le ministère pour le Seigneur. C'est pourquoi l'adoration vous ouvre la voie de Dieu. Certains disent, je n'ai jamais entendu la voix de Dieu. Alors, c'était quand la dernière fois que vous avez adoré Dieu intensément? C'était quand la dernière fois que vous avez eu un temps d'adoration enflammé avec Dieu? Juste vous et Dieu, juste vous, face à face, une rencontre avec Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen, les saints? Maintenant, une cause majeure du manque de puissance aujourd'hui, et la plus grande des menaces sur l'Église du 21e siècle, c'est notre manque de puissance. Vous m'écoutez, les saints? Maintenant, je veux que vous écriviez quelque chose. Voyez-vous, quand il est question du surnaturel, quand il est question d'une puissance surnaturelle, si je devais vous demander... Est-ce que vous croyez que Dieu peut faire un miracle? Qu'est-ce que vous allez me dire? Parlez-moi, qu'est-ce que vous allez dire? Si je vous dis, est-ce que vous croyez que Dieu peut ressusciter les morts? Qu'est-ce que vous allez dire? Si je vous dis, croyez-vous que Dieu peut guérir quelqu'un du sida? Qu'est-ce que vous allez me dire? Oui? Quand il est question d'une puissance spirituelle, du surnaturel, nous avons cette croyance mentale. Mais il nous manque la puissance physique, il nous manque l'évidence physique parce qu'on est déficient dans la puissance spirituelle. Laissez-moi vous dire ceci encore, ceci. Quand il est question du miraculeux, quand il est question du surnaturel, nous avons cette mentalité de croyance. Mais il nous manque l'évidence physique parce qu'on est déficient dans la puissance spirituelle. Et cependant, quand vous regardez à la première église, ils avaient la puissance spirituelle, gloire à Dieu. Mais une cause majeure d'un manque de puissance aujourd'hui dans l'église chrétienne, c'est que les chrétiens ont failli à vivre une vie de ministère envers le Seigneur. Pour faire son ministère envers le Seigneur, c'est ce que Jésus a fait. Jésus a passé la plupart de son temps à faire son ministère envers son Père. Il se trouvait en endroit solitaire, le monde, à une phrase. Aux États-Unis en tout cas, et c'est peut-être la même chose ici certainement, comme les prisons, ils les mettent dans un isolement. Vous avez déjà entendu ça, ils les mettent à l'isolement. Quand vous êtes dans un lieu solitaire avec Dieu, ce n'est pas un isolement, c'est un lieu de raffinement. Dieu va vous raffiner. Jésus, entre des miracles majeurs, il va passer beaucoup de temps avec son Père. Pour faire son ministère avec le Seigneur, s'il vous plaît, écrivez ceci. Ça veut dire adorer. Dieu veut dire adorer le Seigneur. Ça veut dire rendre un culte à Dieu. Ça veut dire magnifier le Seigneur. Ça veut dire aimer le Seigneur. C'est une rencontre face à face avec Jésus, avec Dieu. Mais voyez-vous, aujourd'hui, nous sommes égoïstes. On est vraiment. Moi, 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 moi. Oh oui, que le Seigneur me bénisse, que le Seigneur me guérisse, que le Seigneur me libère. Seigneur, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, j'ai besoin de ça. Nous voulons que le Seigneur fasse son ministère envers nous constamment, sans jamais avoir une seule pensée de rendre un ministère, de lui rendre un ministère. Vous m'écoutez, les saints? Mais dans Actes chapitre 13, verset 1 et 2, nous enseigne, écrivez ceci s'il vous plaît, que avant que nous puissions faire un ministère auprès des gens, tout d'abord, nous devons faire un ministère envers le Seigneur. Avant que vous puissiez jamais faire votre ministère envers les gens, nous devons tout d'abord faire notre ministère envers Dieu. En d'autres termes, Notre premier ministère n'est pas les gens. Notre premier ministère, c'est Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen, quelqu'un? Vous ne pouvez pas toucher les gens si vous n'avez pas touché Dieu. Vous ne pouvez pas toucher les gens si Dieu ne vous a pas touché. Prenez-le et parlez au micro ne veut pas dire que vous allez toucher les gens. Allô? Dites amen, les saints. Faire un ministère auprès des gens est seulement efficace après que nous ayons fait notre ministère envers Dieu. Maintenant, écrivons certaines choses, s'il vous plaît, les gens. Voyez-vous, la plupart de notre adoration est mécanique. Une attitude extérieure et une routine. Alors que nous devons adorer Dieu de notre cœur. Jésus dit, ceux qui adorent Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité. D'accord? Regardez à Jean chapitre 4. En fait, si vous pouviez le mettre sur l'écran, Jean chapitre 4, versets 21 à 24, s'il vous plaît. Versets 21 à 24, Jean 4, 21 à 24. En fait, on va revenir en arrière un peu plus vers... Commençons par le verset 19. Le verset 19 est plus loin. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète, d'accord? Verset 20. Nos pères ont adoré où? Sur cette montagne, d'accord? Et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer, entourez ça sur la, dans votre Bible, nous adorons sur la montagne, mais vous dites que c'est à Jérusalem l'endroit pour adorer. Vous entendez le lieu? C'est l'endroit où il faut adorer, d'accord? Maintenant, le verset suivant. Femme lui dit, Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Pas sur cette montagne et pas à Jérusalem non plus. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Verset 24. Lisons-le. Mais l'heure vient, verset 23. Et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père, ou en esprit et en vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Le Père recherche ce genre de gens-là. Maintenant, je veux que vous écriviez certaines choses encore. Une vraie adoration, une adoration acceptable, ne peut seulement être faite par un cœur d'un chrétien né de nouveau. Voilà ce qu'il faut que vous écriviez maintenant. Écoutez-moi attentivement maintenant. Si vous ne saisissez pas tout ce que je vais vous dire maintenant, prenez le CD et écoutez-le encore et encore, jusqu'à ce que ça tombe dans votre esprit. Écoutez attentivement. Dans l'Ancien Testament, le mot le plus commun pour l'adoration, c'est le mot Ishtar. Lequel? Ishteva, excusez-moi. A-S-V-A-S. Et d'autres mots qui sont similaires à celui-là. Sa signification de base, Ishteva, veut dire en fait se prosterner. Se prosterner. Se courber devant le Seigneur, d'accord? Avec un sens de révérence, de respect et d'honneur. Ça arrive. 171 fois dans la Bible, dans l'Ancien Testament, le mot Ishtevar et d'autres mots qui sont similaires à ce mot. Ça arrive 171 fois dans l'Ancien Testament. Maintenant, écoutez-moi attentivement. Ça, c'est la Bible hébraïque. Maintenant, quand ils ont traduit l'Ancien Testament de l'hébreu au grec, c'est connu la Saturgée. Pourquoi la Septante? Parce qu'ils ont eu besoin de 7 personnes pour la traduire. Pour la Bible de Septante, fois, ils utilisent le terme. Écoutez, écrivez ceci, proskuneo. Proskuneo. P-R-O-K-U-N-E-O. Maintenant, écoutez. Le même mot est utilisé dans le Nouveau Testament. Proskuneo. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire face à face. D'accord. Maintenant, regardez ceci. Mais quand vous regardez à la manière avec laquelle il est utilisé, c'est utilisé 26 fois dans le Nouveau Testament et la plupart du temps c'est dans l'Évangile, d'accord ? Et dans le livre de l'Apocalypse, mais pas utilisé dans les Épîtres. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que ce n'est pas utilisé dans les Épîtres ? C'est utilisé dans le livre de l'Apocalypse 21 fois. Et 5 fois dans les évangiles. Mais regardez ceci. Parce que les anges se prosternent. Les 24 anciens vont se prosterner. D'accord ? Et dans le Nouveau Testament, on a vu la femme qui perdait du sang, qui s'est prosternée devant le Seigneur. Vous vous souvenez ? D'accord ? Donc c'est remarquable que le mot adoration dans l'Ancien Testament est presque absent du Nouveau Testament, en tout cas des Épîtres. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ça ? Maintenant, souvenez-vous, il venait à Jésus et il se prosternait devant lui. C'est vrai ou pas ? Ou ils allaient au temple et ils se prosternaient dans le temple. Voyez-vous ? Voici la chose que vous devez comprendre. Ce que l'Église essaye de nous faire comprendre, c'est que l'adoration n'est pas un endroit où vous allez. L'adoration, ce n'est pas basé sur la location, sur l'endroit où vous êtes. Vous comprenez cela ? L'adoration n'est pas basée sur la location. Ce n'est pas question d'une réunion ou d'un endroit, mais l'adoration, c'est une question du cœur. Est-ce que je peux entendre un amen, quelqu'un ? Maintenant, regardez dans votre Bible, s'il vous plaît, avec moi. Dans le psaume 137. Voyez-vous, dans l'ancien temps, il visualisait l'adoration comme un endroit où on allait. Écoutez-moi maintenant. Laissez-moi vous donner un peu d'informations. Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Ceci va arrêter les gens d'aller dans d'une église et sauter dans une autre et encore une autre. L'église n'est pas un endroit où nous nous rendons. L'église est une famille à laquelle on appartient. Vous avez une famille ? D'accord ? Vous n'allez pas dans votre famille, vous faites partie d'une famille. Quand on peut vous faire comprendre que l'église n'est pas un endroit dans lequel vous vous rendez, mais une famille à laquelle vous appartenez. Ça va changer la manière avec laquelle vous regardez l'église. Vous m'écoutez, quelqu'un ? Vous avez des enfants, n'est-ce pas ? Ça n'a pas d'importance combien mal ils peuvent se comporter, ils sont toujours vos enfants. Peut-être qui peut être l'entêté le pire que vous connaissez, il est toujours votre fils, il est toujours votre fille, n'est-ce pas ? Donc, quand mon fils fait quelque chose de faux ou quand ma fille fait quelque chose de faux, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas mes enfants, ils sont toujours mes enfants. On peut se disputer, les parents se disputent avec leurs enfants. En tout cas, c'est une chose que nous, on fait. Alléluia, merci Jésus. Vous savez, mon garçon, tu sais, moi, j'étais ici avant toi, je sais ce que tu penses. Et puis, il dit, mais comment tu penses ? Comment tu sais que ce que je pense ? Je lui dis, mais parce qu'avant même que tu penses, moi, je l'y ai pensé déjà, pour moi-même. Et ensuite, quand ils s'éloignent, quand ils sont à l'école, par exemple, quand ils sont séparés dans un lieu différent, vous continuez de penser à eux, n'est-ce pas ? Parce que c'est votre famille. Donc, l'église n'est pas un lieu dans lequel on se rend, mais c'est une famille à laquelle nous appartenons, que quelqu'un dise amen. Mais regardez à ce verset. Voici le dilemme du peuple dans l'Ancien Testament. Maintenant, le psaume 137, versets 1 à 6. Certaines personnes, la seule raison pour laquelle ils connaissent ce verset, c'est parce qu'ils ont entendu Bonéem. Qui ont chanté ce chant, d'accord ? Avant même que Bonéem l'ait chanté, avant que Daddy Cool y ait chanté, c'était déjà dans la Bible, amen. Donc, psaume 137, verset 1. Le jour où nous étions assis et nous pleurions auprès des fleuves de Babylone, certains d'entre nous, on a dansé avec des chaussures qui étaient de vraies plateformes et on a dansé sur ce chant, que Dieu ait pitié. auprès des fleuves de Babylone. Là, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. D'accord? Pourquoi est-ce qu'ils pleuraient? Parce qu'ils étaient maintenant à Babylone. Au saule de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Verset 3. Là, nos vainqueurs nous demandaient des cantiques. Et nos bourreaux de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Regardez au verset suivant, s'il vous plaît. Comment chanterions-nous le cantique de l'Éternel sur un sol étranger? Comment on peut chanter de Sion quand on est à Babylone? D'accord? Le verset suivant, s'il vous plaît. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie. D'accord? Le verset suivant, s'il vous plaît. Que ma langue s'attache à mon palais. Si je ne me souviens pas de toi, si je ne mets pas Jérusalem au-dessus de toute autre joie. Quel était leur problème? Pourquoi est-ce qu'ils ne pouvaient pas chanter à Babylone? Parce que pour eux, l'adoration devait être où? À Jérusalem. Ça devait être dans le temple. Donc, l'adoration, c'est un lieu où ils se rendaient. Mais Dieu dit, vous n'avez plus à aller dans un certain lieu pour adorer. Vous pouvez adorer juste là où vous êtes. Dites Amen, les saints. Ils pensaient qu'ils ne pouvaient pas adorer parce qu'ils étaient à Babylone. Et non pas à Jérusalem, mais Jérusalem, parce que pour eux, Jérusalem était le point central de l'adoration. Donc, ils avaient le sentiment qu'ils ne pouvaient pas le faire. Ils se sentaient bizarres d'adorer là où ils étaient. Mais aujourd'hui, Jérusalem n'est pas le point de la concentration de notre adoration. C'est Jésus, ce n'est plus un endroit, c'est une personne. Que quelqu'un dise Alléluia, c'est pas un lieu. Dites, ce n'est pas un lieu, c'est une personne. Amen. Donc nous devons apprendre à faire notre ministère envers le Seigneur. C'est extraordinaire. Combien souvent le terme faire son ministère envers le Seigneur est mentionné dans la Bible. Et il y en a beaucoup, mais je vais vous en donner 5. Vous êtes prêts? Numéro 1, durant le temps qu'ils ont passé au Sinaï, quand Israël était dans le désert. Regardez à Deutéronome, c'était dans le désert, hein? En d'autres termes, faire son ministère veut dire adorer, d'accord? Ça veut dire servir le Seigneur avec l'adoration, aimer le Seigneur. Alors qu'il restait au Sinaï, alors que Israël était dans le désert. Deutéronome 10, verset 8. Lise avec moi, s'il vous plaît. En ce temps-là, on va lire tous ensemble, s'il vous plaît. En ce temps-là, l'Éternel mit à part la tribu de Lévi pour apporter l'arche de l'alliance de l'Éternel, pour se tenir devant l'Éternel, afin quoi? Afin d'être à son service et pour bénir le peuple en son nom, faire son service et faire son ministère. Regardez, il est dit que Dieu a séparé une tribu. Il doit y avoir une séparation. Est-ce que je peux entendre un amen, les saints? Maintenant, écoute, écrivez ceci. Ils sont séparés de, et on peut se séparer à quelqu'un. On se sépare du monde ou de vos problèmes et vous vous séparez pour Dieu. Maintenant, écoutez. C'est ce qu'on appelle avoir une rencontre ou une communion avec le Saint-Esprit. Le terme communion est le mot grec koinonia. Et regardez-moi, vous ne pouvez pas avoir le koinonia, qui est le mot pour l'intimité, sans avoir un temps privé et une exclusivité. C'est l'exclusivité et le privé qui enclenche l'intimité. Sans l'exclusion et sans la vie privée, vous ne pouvez pas être intime. Allô? Aucune distraction. Vous m'écoutez, les saints? Donc, le Seigneur a séparé la tribu de Lévi pour porter l'arche de l'Alliance. Maintenant, Encerclez le terme arche de l'alliance et écrivez là où était l'arche de la là où était la présence de l'arche symbolisait la présence du Seigneur, d'accord? Et pour se tenir devant le Seigneur, pour faire votre son ministère et pour bénir son nom, vous pouvez faire cette connexion entre la présence de Dieu et l'arche de l'alliance et se faire son ministère envers le Seigneur. Vous voyez la connexion ici? Vous pouvez voir la connexion ici entre faire son ministère envers le Seigneur, servir le Seigneur et l'arche. D'accord? Numéro 2. Quand Israël traversait un désert spirituel, qu'est-ce que je veux dire par là? Les dirigeants, les prêtres, ne servaient plus Dieu d'une bonne manière. Les fils d'Élie volaient l'offrande et fornicaient dans le temple. Il n'y avait plus des leaders qui étaient respectueux. La Bible nous dit que la parole du Seigneur était rare. Il n'y avait plus de voix prophétique, aucune parole du Seigneur, aucune vision ouverte. Les prêtres étaient faibles et abominables. Venez avec moi dans 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2 et verset 17. 1 Samuel chapitre 2 et verset 17. Lisez avec moi s'il vous plaît le verset 17 et 19. Le péché de ces jeunes gens, c'est les prêtres, les fils de d'Élie. Les fils d'Élie et non pas de Lévi. Les fils d'Élie. Le péché de ces jeunes gens était très grand devant l'Éternel, car on traitait avec mépris l'offrande faite à l'Éternel. Regardez au verset 18, tout le monde lit avec moi. Tous ensemble, Samuel faisait le service devant l'Éternel. Et ce garçon était... Et c'était un garçon. Et vous les parents, vous voulez que vos enfants adorent le Seigneur dans leurs vieux jours, alors enseignez-leur à le faire quand ils sont jeunes. Enseignez-leur, écoutez-moi. C'est pas parce que vous les amenez à l'église que ça va dire qu'ils vont adorer Dieu. Allô? Nous, en tant que parents, nous avons la responsabilité spirituelle à l'école du dimanche. Mais ils les ont que 45 minutes par semaine. Enseignez-les à la maison à élever leurs mains vers Dieu, pour adorer Dieu, pour aimer le Seigneur de tout leur cœur et de tout leur âme. Et ils feront cela quand ils vous feront, vous les parents qui le font. Aucun homme et aucune femme n'a jamais été plus grand que quand ils sont couchés par terre à adorer le Seigneur. Alléluia. Et quand vos enfants vous voient, vous qui adorez Dieu, qui honorez Dieu, les larmes qui coulent sur vos joues, vous ne souciez plus comment vous, l'apparence que vous avez, mais vous adorez Dieu. Et vous allez voir les résultats dans vos foyers. Vos enfants seront marqués pour toujours parce que mon papa est allé devant Dieu et Dieu lui a donné un miracle. Que quelqu'un dise amen. C'est la raison pourquoi je vous le dis, aucun homme n'a jamais été plus grand que quand il est par terre devant Dieu. Alléluia. Que quelqu'un dise alléluia. Vous savez pourquoi j'adore Dieu? J'adore Dieu parce qu'il m'a aimé le premier, qu'il a donné sa vie pour moi. Que quelqu'un dise alléluia. Gloire à Dieu. Il m'a sauvé. Je ne l'ai pas sauvé, c'est lui qui m'a sauvé. Je ne l'ai pas cherché, c'est lui qui est venu me chercher. Je lui dois l'adoration, je lui dois la louange, je lui dois l'honneur, je lui dois l'adoration. Gloire à Dieu. En tant qu'enfant, regardez 1 Samuel chapitre 3 verset 1. 1 Samuel chapitre 3 verset 1. Regardez ce qu'il nous est dit ici. Gloire à Dieu. Vous êtes prêts? Le jeune Samuel, dites le jeune. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel auprès d'Élie. Faire son service, c'est le ministère. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient point fréquentes. Mais alors qu'ils adoraient, il a entendu ce terme, Samuel, bang! Alors qu'il n'y avait pas de voix prophétique, une voix prophétique est revenue. Quand il n'y avait plus de vision ouverte, une vision ouverte est venue. Quand il n'y avait plus de parole du Seigneur, Dieu parle encore. J'essaye de vous dire que quand vous adorez Dieu, Dieu va vous parler. Alléluia. Gloire à Dieu. Numéro 3. À la consécration du temple, quand ils ont terminé le temple. Regardez ce qui s'est passé. 2 Chroniques chapitre 5, versets 11 à 14. 2 Chroniques chapitre 5, versets 11 à 14. Lisons-le ensemble. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes. Le verset suivant. Et tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Héman, Yedutun, leurs fils et leurs frères, revêtus de byssus, se tenaient à l'est de l'autel avec des cymbales, des luttes et des harpes, et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Gloire à Dieu! Regardez le verset suivant. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissaient ensemble d'un même accord pour louer et célébrer l'Éternel et firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et louèrent l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa bienveillance dure à toujours. Venez maintenant, levez votre main et dites « Le Seigneur est bon ». Dites encore une fois, le Seigneur est bon, car sa bienveillance durera toujours. Dites-le encore, le Seigneur est bon, et sa bienveillance durera toujours. Disons-le plus fort, le Seigneur est bon, et sa bienveillance durera toujours. Qu'est-ce qui se passe? La maison. Quand ils ont adoré. Quand ils donnent la louange à Dieu, quand ils élèvent leur voix d'un seul cœur, alléluia, alors la maison a été remplie d'une nuée, la maison même du Seigneur. Gloire soit à Dieu. Le verset suivant, c'est « Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire quoi le service, pour faire leur ministère, à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. » Ouh, alléluia. Quand vous faites votre ministère envers le Seigneur, sans honte, et que vous élevez votre voix, et que vous frappez dans vos mains, et que vous commencez à vous prosterner devant le Seigneur, en ne vous souciant de personne d'autre, c'est juste vous et Jésus, c'est justement vous et votre Dieu, et vous lui donnez la louange qui lui revient, la gloire de Dieu. Dieu ne se soucie d'aucune personne. S'il l'a fait dans l'Ancien Testament, il va le refaire encore. Alléluia. Je vois une nuée de gloire qui vient dans votre église. Je vois une nuée de gloire qui vient dans votre vie. Je vois une nuée de gloire qui vient dans vos maisons alors que vous adorez Dieu. Alléluia. Alléluia. Le monde parle de nuées de dépression, hein? De nuages, des problèmes financiers, les problèmes de, les nuées de récession, vous pouvez rouler ce nuage-là et amener le nuage de la nuée de Dieu, la gloire de Dieu dans votre vie. Amen, amen, amen. Merci Jésus. Numéro 4. Marie, la mère du Seigneur Jésus, a fait son ministère, son service envers le Seigneur. C'est connu aujourd'hui comme le Magnificat. Vous avez déjà entendu ce nom, le Magnificat? C'est quoi le Magnificat? C'est quand Marie a commencé à louer Dieu, après que Dieu lui ait dit que le Saint-Esprit va venir sur toi et celui qui naîtra de toi sera appelé le Fils du Dieu Très-Haut. C'est une chose sainte. Et gloire à Dieu, elle n'avait même pas encore eu d'enfant. Comment c'était possible? Mais elle a commencé à louer le Seigneur. Mon âme magnifie le Seigneur. Est-ce que je peux entendre un amen, quelqu'un? Elle a fait son ministère, son service au Seigneur. Alléluia. Amen. Quand elle a reçu la parole du Seigneur et quand elle a vu Élisabeth, on n'a pas le temps parce que c'est des trop longues écritures, mais le Magnificat est trouvé dans Luc chapitre 1, versets 26 à 41. Alléluia. Maintenant, numéro 5, c'est quand Anne, la prophétesse, qui servait, Vous savez ce que ça veut dire, servir, c'est faire son ministère envers le Seigneur ou adorer, n'est-ce pas, qui servait Dieu jour et nuit avant la venue du Messie. Regardez à Luc chapitre 2, versets 36 et 37. Luc chapitre 2, versets 36 et 37. Vous êtes prêts? Tout le monde lit avec moi, s'il vous plaît. Il y avait une prophétesse. Combien? Une. Il y a beaucoup d'ânes, hein? Mais il y a seulement une qui adorait le Seigneur à ce temps-là. Il y a peut-être beaucoup de glen. Mais il y a seulement un glen qui fait ce qu'il est en train de faire maintenant, hein? D'accord? Il y a peut-être beaucoup de Vincent. Mais il y a juste un Vincent ici, dans cette église maintenant. Allez, allez, que quelqu'un dise amen. Alléluia. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel. Pourquoi Phanuel? Pourquoi le Saint-Esprit mis cela? De la tribu d'Azer. Elle était d'un âge fort avancé. Samuel était un enfant. Et ceci, c'est un vieil oiseau. Amen. Elle était d'un âge fort avancé. Après avoir vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Regarde au verset suivant, s'il vous plaît. Elle resta veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et servait Dieu. Elle faisait son ministère envers le Seigneur nuit et jour par des jeûnes et des prières. Maintenant, quel était son nom? Anne. Qu'est-ce que ça veut dire, Anne? Anne veut dire grâce. Elle était la fille de Phanuel. Qu'est-ce que ça veut dire, Phanuel? Phanuel veut dire le visage de Dieu. Regardez ceci. Phanuel veut dire quoi? La face ou le visage de Dieu. Donc, Phanuel a donné naissance à grâce. Quand vous recherchez la face de Dieu, quand vous adorez Dieu, ce qui va couler dans votre vie, c'est la grâce de Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen, quelqu'un? Amen. Que quelqu'un dise alléluia. Maintenant, pour clôturer. Voyez-vous, vous devez être intense. Vous devez être intense intentionnellement dans votre adoration. Vous savez, il y a quelques années, vous voyez des gens ou des prédicateurs qui ne venaient pas dans le service pour adorer Dieu. Qui venaient seulement quand l'adoration était terminée. Ensuite, ils entraient et ils faisaient leurs choses. Mais voyez-vous, je ne suis pas ici en tant que président, mais je suis en tant que ministre de l'Évangile. Alors j'adore Dieu avec vous et je loue Dieu avec vous. Donc, quand je veux passer plus de temps pour me consacrer devant le Seigneur, mais la plupart du temps, ils ne font pas ça parce qu'ils veulent passer plus de temps avec le Seigneur, c'est juste qu'ils ne s'inquiètent pas, ils ne veulent pas adorer le Seigneur, c'est tout. Et il y a des gens, c'est des prédicateurs qui ne vont pas à l'église pour la louange et l'adoration. Et ils vont attendre pour venir au moment du serment. Et ça, c'est faux. Vous n'avez pas entendu ma parole, c'est faux. On doit être là dès le début pour adorer Dieu, pour louer Dieu. Amen. Parce que vous savez quoi, la plupart du temps, si vous venez plus tôt et que vous commencez à donner la louange à Dieu et l'adoration, votre guérison va prendre place à ce moment-là. Et votre guérison va arriver, votre miracle va arriver juste à ce moment-là. Parce que quand vous louez Dieu, la puissance descend. Comme Paul et Silas commençaient à louer Dieu, qu'est-ce qui s'est passé à leurs chaînes? Leurs chaînes ont été brisées, les portes des prisons ont été ouvertes. Que vous puissiez briser toutes les portes des prisons, dites amen les saints. Laissez-moi vous donner 3 bénéfices de l'adoration envers Dieu. J'ai parlé d'une adoration sans honte. Je parle de déverser votre cœur devant Dieu. Comme Anne dans l'Ancien Testament, comme Anne dans le Nouveau Testament, comme David dans l'Ancien Testament, loué soit Dieu. Vous savez ce que j'aime à propos de David? Il dit, je veux louer Dieu, je veux adorer Dieu. Que quelqu'un dise amen. Je parlerai un petit peu de David demain. Maintenant, écrivez ceci. 3 bénéfices de l'adoration. Numéro 1, vous êtes prêts? Si on revient à ce verset, dans Actes chapitre 13, s'il vous plaît. Actes chapitre 13, verset 2 nous dit, pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, qu'est-ce que dit le Saint-Esprit ? Hein ? Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Verset 3 dit, alors, après avoir jeûné et prié, ils imposèrent les mains et les laissèrent partir. Verset 4, eux donc, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci et de là, ils s'embarquèrent. Voyez-vous, l'adoration dévoile les plans de Dieu. L'adoration vous donne la direction. Alors, vous savez exactement quoi faire, le servir. Parfois, vous dites, je ne sais juste pas quoi faire. Je ne sais pas ce que je suis supposé faire de ma vie. Je ne sais pas quel doit être mon prochain pas. Adorer. Est-ce que je vais à Accra ou est-ce que je vais dans un autre lieu ? Hein ? Est-ce que je vais... Dans quel collège je vais m'adorer Dieu ? Mon fils m'a dit, mais papa, il vient juste d'avoir son diplôme. Il dit, mais qu'est-ce que je fais avec ma vie ? Je vais dans quel collège ? J'ai dit, mais adore Dieu. Il va vous dire où aller. Il va vous le dire. Où aller ? Quel est le meilleur endroit pour votre vie ? Donc l'adoration dévoile les plans de Dieu et vous donne la direction. Numéro 2. L'adoration amène la gloire de Dieu sur vous. Qu'est-ce que fait l'adoration ? Elle amène la gloire de Dieu sur vous. On a vu cela dans 2 Chroniques, chapitre 5, versets 11 à 14. Alors que les prêtres sortaient du lieu saint, ils faisaient un seul son pour louer. Amen. Ils louaient le Seigneur. Et quand ils ont élevé leur voix à travers les trompettes, leur voix et les cymbales, et qu'ils ont loué le Seigneur, qu'est-ce qui est arrivé ? La maison était remplie de la nuée. La maison était remplie de la nuée. Donc l'adoration sécurise et amène la gloire de Dieu. Et laissez-moi terminer avec ceci pour ce soir. Levons-nous tous, s'il vous plaît. Tous levons-nous sur nos pieds. Mettons-nous debout et je vais clôturer le dernier point. C'est que l'adoration amène et sécurise la guérison. L'adoration amène et sécurise la guérison. Marc chapitre 7, versets 25 à 29 dit quand il y avait une femme qui avait une jeune fille qui avait un esprit impur. Elle a entendu parler de Jésus. Elle est venue. Elle est tombée à ses pieds. Elle s'est prosternée à ses pieds. La femme était grecque, phénicien de nation. C'était même un enfant d'Israël. Et elle lui demandait, ça veut dire, elle lui a supplié. Alors, quand vous adorez, vous présentez votre supplication devant Dieu. Vous entendez, quand vous commencez à adorer Dieu, Dieu dit, moi je dois faire quelque chose. Est-ce que vous ne voulez pas que Dieu soit comme ça sur vous, hein? Vous commencez à adorer Dieu, vous commencez à louer Dieu et vous commencez à aimer le Seigneur. Simplement dire au Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'adore, Seigneur, je te loue. Il n'y a personne qui soit plus grand que toi, Dieu. Tu es plus grand que le plus grand. Tu es plus fort que le plus fort. Tu es le tout-puissant. Tu es le premier et le dernier. Avant toi, il n'y avait personne et après toi, il n'y aura personne. Tu es le grand Dieu. Dieu, tu es l'amour de ma vie. Dieu, je t'aime. Vous savez, parfois, je parle à Dieu, je lui dis, je t'aime mieux, je t'aime plus que les glaces et moi, j'aime les glaces. Et il sait que je le pense. Seigneur, je t'aime plus qu'à Gandas. Il n'y a aucune Agandas qui peut être comparée à toi, oh Dieu. Hein? Il y a un cake à l'île Maurice qu'on appelle le Napolitain. Alors, si vous venez des îles Maurice, aucun Mauricien Aucun Mauricien ne peut ne pas aimer le napolitain. Tout le monde, quand vous allez à l'île Maurice. Oh, je dois manger un napolitain. Ah, quelqu'un va dire, ça, quel goût. Le napolitain, c'est comme un ange qui danse sur votre langue. C'est comme un ange qui danse sur votre langue. C'est Dieu. Mais une fois, un jour, je vous parlerai d'un miracle demain. Vous vous souvenez, je vous ai dit que j'avais cet immeuble, puis je devais croire en Dieu parce que je n'avais pas d'argent. Je suis allée dans les bois, j'ai marché avec Dieu. J'ai dit, pour moi, tu es plus doux et tu es mieux qu'un cake napolitain. Et l'argent est venu, gloire à Dieu. Vous m'écoutez? Alors que vous vous moquez de moi j'entends le bruit qui fait tikin, tikin, l'argent qui arrive. Le Seigneur aime, il aime quand les gens l'adorent. Dites Amen. Et la femme qui était une syrophénicienne de nation lui a supplié qu'elle chasse les démons hors de sa fille. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Elle lui dit, Seigneur, même les chiens mangent les restes sous la ta les miettes sous la table. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Combien d'entre vous ce soir veulent que Dieu agisse dans votre vie? Levons nos mains vers Dieu ce soir. Est-ce qu'on peut élever nos voix et commencer à adorer Dieu? Alléluia. Venez, dites-lui simplement combien vous l'aimez ce soir. Alléluia. Père, je t'adore. Ouvrez votre bouche maintenant. Si vous voulez prier en français ou en anglais, faites-le. Ou si vous voulez l'adorer en langue, alléluia. Venez, ouvrez votre bouche maintenant. Venez, venez, vous pouvez faire mieux que ça. Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, nous t'aimons. Dieu, oh que je t'aime. Je t'aime, Dieu. Dieu, je t'aime. Alléluia. Oh, nous t'adorons. Nous t'adorons. Oh, je te loue. Je te donne la gloire, oh Dieu. Je te donne ma louange. Je te donne la gloire, oh Dieu. Je te loue. Je te donne la gloire, oh Dieu. Je te loue. Cache qui dit bouche, Kaya. Dieu, je t'honore. Je te remercie ce soir, oh Dieu. Nous avons le feu dans notre adoration, oh Dieu. Nous avons la vie dans notre adoration, oh Dieu. Nous t'aimons de tout notre cœur. Nous t'aimons de toute notre pensée, oh Dieu. Cache qui dit bouche, Kaya Indika. Venez, mettez du feu dans votre adoration ce soir. Levez vos voix maintenant. Alléluia. Adorez, frappez dans vos mains. Et faites du bruit pour le Seigneur. Criez à Dieu avec une voix de triomphe. Cache qui dit bouche kayendi, cache qui dit bouche kaya. Et alors que vous adorez Dieu, et alors que vous donnez la louange à Dieu, il va vous diriger. Alléluia. Koche qui dit bouche kayendi, cache qui dit bouche kaya. Laissez-moi vous dire ce soir, alors que nous clôturons, que l'adoration vous ouvre au don de l'esprit. Séparez pour moi Saul et Barnabas, pour la sagesse les préparer. Vous voulez les dons de l'esprit? Adorez Dieu. Il va vous donner les dons de guérison. Il va vous donner une parole de sagesse. Il va vous donner le parler en langue. Vous voyez, c'est des choses qu'on ne voit plus. Comment est-ce qu'on peut s'appeler des églises pentecôtistes quand il y a plus de langues et d'interprétation des langues, hein? Beaucoup d'églises pentecôtistes aujourd'hui ne savent rien d'autre que de glorifier l'église baptiste. Hein? Mais ce qui nous sépare des autres, c'est qu'on croit au Saint-Esprit qui agit. Pasteur Vincent, c'est vous, c'est qui ce soir? Amen, c'est Pasteur Nelly. N'oubliez pas les livres. Loué soit le Seigneur. C'est de grands livres. Loué soit Dieu. Amen. Équipe de louanges. Alléluia. Merci, monsieur. Alléluia. C'est bon d'adorer Dieu. Amen, alléluia. Sois magnifié, ô Seigneur, sois magnifié, Seigneur Dieu. Sois magnifié, sois magnifié. Ouvrez votre bouche et simplement louez-le ce soir. Koche qui dit bouche qui yandikash qui dit bouche kaya. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur Dieu, nous t'adorons, oh Dieu. Nous t'adorons, Seigneur Dieu. Nous t'adorons, Seigneur Dieu. Alléluia à ton nom, Seigneur Dieu. Nous te louons. Sois magnifié, sois glorifié, oh Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Saint-Esprit de Dieu. Oh Saint-Esprit de Dieu. Sois parmi nous, oh Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Sois magnifié, sois glorifié. Alléluia, merci Jésus. Alléluia. Oh, nous t'adorons, Seigneur Dieu. Alléluia, Seigneur Dieu. Jésus, Jésus. Merci, Seigneur Dieu. Dévoile tes plans pour chacun d'entre nous, oh Dieu. Donne-nous tes directions maintenant dans le nom de Jésus. Sois magnifié. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Jésus, Jésus. Alléluia. Merci Jésus, merci Seigneur. Merci Jésus. Sois magnifié, oh Seigneur, tu es grandement exalté et il n'y a rien, rien que tu ne puisses pas faire. Oh Seigneur, mes yeux sont fixés sur toi, sois magnifié. Oh Seigneur, sois magnifié. Sois magnifié. Sois magnifié. Oh Seigneur, tu es grandement exalté. Tu es grandement exalté. Et il n'y a rien, rien que tu ne puisses pas faire. Oh Seigneur, mes yeux sont fixés sur toi. Sois magnifié. Oh Seigneur, sois magnifié. Sois magnifié. Sois magnifié. Oh Seigneur, tu es grandement exalté. Et il n'y a rien, rien que tu ne puisses pas faire. Oh Seigneur, mes yeux sont fixés sur toi. Sois magnifié. Oh Seigneur, sois magnifié. Sois magnifié. Sois magnifié, Jésus. Sois élevé, oh Dieu. Tu es grandement exalté. Tu es grandement exalté. Et il n'y a rien, rien que tu ne puisses pas faire. Oh Seigneur, mes yeux sont fixés sur toi. Sois magnifié. Oh Seigneur, sois magnifié, seulement avec nos voix. Sois magnifié, oh Seigneur. Tu es grandement exalté. Et il n'y a rien, rien que tu ne puisses pas faire. Oh Seigneur. Mes yeux sont fixés sur toi. Sois magnifié. Oh Seigneur, sois magnifié. Oh Seigneur, soit magnifié. Ô Seigneur, sois magnifié. Alléluia.